Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
La force du silence, oser le silence, la chasteté du langage, le bruit est une drogue. Bonjour Alexia Vido.
Bonjour.
Voilà quelques mots pour rappeler aussi que lors de l'entretien d'hier, nous avons ouvert une fenêtre sur cette question aussi de faire silence. Est-ce que je fais silence aujourd'hui dans un monde agité, un monde où tout va vite, un monde bruyant, un monde aussi qui vit avec et qui est connecté de partout, des réseaux sociaux, comment faire silence dans ce monde si bruyant, comment préserver aussi cette relation entre Dieu et moi, donc cette relation au fond d'écoute, cette relation qui permet de rester attentif et qui nous évite peut-être l'égarement et l'égarement vers les mondanités du monde et ces bruits qui nous éloignent parfois de cette première rencontre, cette rencontre qui a été le choc et le miracle, le miracle de la rencontre dont vous parliez tout au début aussi de cette série. Alors Alexia Vido, vous en parlez aussi dans cet ouvrage des cœurs brûlants, vous parlez un Dieu qui parle dans le silence et vous donnez aussi l'exemple du prophète Élie.
Élie, après avoir trucidé les prophètes de Baal, avoir fait descendre le feu sur le mont Carmel, par marcher, enfin c'est toute une histoire, hein, je vous renvoie au livre des rois, au premier livre des rois, mais il se retrouve sur le mont Horeb, après 40 jours d'une quarantaine assez drastique, et il s'attend à voir Dieu dans l'ouragan, mais il n'était pas dans l'ouragan, dans le feu, il n'est pas dans le feu, il est dans la voie d'un fin silence. Et là il se met à genoux et il voit passer Dieu. Donc Dieu est dans la voie d'un fin silence. Il n'est pas dans le fracas du tonnerre, dans le feu, dans l'ouragan. Il est dans la voie d'un fin silence. Dieu nous parle dans le silence. Et donc il faut se taire pour l'écouter. Il faut se faire silence en soi, descendre dans son cœur profond pour entendre cette voix. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peur du silence. Et c'est vrai que le silence peut être redoutable parce que quand on se retrouve face à soi-même, on voit parfois des choses qu'on préférait ne pas voir, qu'on préfère occulter. Parfois, on touche même qu'on a un vide abyssal en nous et donc on veut vite combler avec du bruit, avec des activités, etc. Mais c'est finalement à cet endroit précis du cœur que Dieu nous attend et veut nous parler et veut nous combler notre cœur d'autre chose que de notre vide, de son amour finalement. Il y a quelques années, j'ai été invitée sur KTO et à la fin de l'émission, on me demandait quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut trouver Dieu. C'était il y a pas mal d'années, donc peu après ma conversion, mais ma réponse est la même aujourd'hui, c'est oser le silence. Même si c'est pas facile, même si ça fait peur, oser ne serait-ce que quelques jours s'extraire de cette société hyper connectée où on est sans cesse sollicité et parasité. Parce qu'à force de vivre à l'extérieur de soi-même, finalement, on ne se connaît pas. Et c'est terrible, même pas de connaître Dieu, mais juste se connaître soi, on ne se connaît pas.
Alors, c'est votre expérience aussi. On a très peu parlé de votre témoignage, Alexia Vido. Vous êtes ici à Lourdes pendant ce grand pèlerinage du Rosaire. Vous avez présenté votre conférence, qui était une conférence aussi de témoignage sur votre propre conversion, car depuis le début de la semaine, dans cet ouvrage, comme des cœurs brûlants, on parle de ces différents portraits, hommes et femmes du XXe siècle, que vous avez sélectionnés, que vous avez cherchés, qui sont venus peut-être vous toucher droit au cœur. En ce qui vous concerne, au fond, en ouvrant cette fenêtre sur la question du silence, où j'en suis dans ce silence et quel type de silence aussi j'attends, Dieu est venu vous toucher, vous chercher, dans un moment où vous étiez hyper connecté dans une vie d'étudiante à Paris et où vous avez aspiré à un besoin de silence.
Oui, en fait, c'est...
Il est venu vous cueillir dans ce silence-là monastère.
Oui, c'est ça.
De ces trois jours.
Ce qui est assez drôle, c'est que donc j'avais 20 ans, j'étais étudiante à Sciences Po, j'avais besoin de silence. Et un soir, deux copines de lycée, des catholiques pétillantes, sont venues dîner chez moi et elles venaient de passer le Nouvel An dans un monastère à la montagne. Au fil de la discussion, elles lancent « Tiens Alexia, ce serait bien que tu ailles là-bas après tes examens pour te reposer ». Et donc moi, comme j'avais besoin de silence, je me suis dit, s'il y a bien un endroit sur Terre où je peux me retrouver seule et en silence, c'est un monastère. Et mes copines ont eu la bonne idée de me dire, mais t'inquiète pas, surtout, tu seras pas obligée d'aller à l'église, tu seras pas obligée d'aller à la messe, les sœurs viendront pas t'embêter. Et donc, elles m'ont présenté la chose comme un bon plan vacances à la montagne. Et c'est pour ça que j'y suis allée. C'était pas du tout pour rencontrer Dieu, ni quoi que ce soit. J'étais totalement indifférente aux choses de Dieu. Et en fait, Dieu s'est servi de mon besoin de silence pour me rencontrer. Et ce qui est très beau, c'est que j'ai déjà été marquée par le silence de la création. Quand on se retrouve face à la chaîne du Mont Blanc immaculé de neige, il y a un silence particulier, un silence extérieur qui a comme infusé en moi et a comme dilaté mon cœur et l'a rendu disponible à autre chose. Et ensuite, le premier soir, contrairement à ce que mes copines m'avaient promis, une sœur est venue dans ma chambre. Donc sur le coup, j'étais un peu... j'étais pas très contente, je pensais être tranquille le soir, j'allais me coucher, etc. Donc une sœur vient. Et en fait, elle m'a écoutée. Et donc, elle a fait silence, elle aussi. Elle a fait silence, elle n'a pas plaqué plein de trucs sur moi. Elle m'a juste entourée d'une écoute bienveillante qui était le fruit aussi d'un silence. Et je pense que c'est aussi essentiel quand on va à la rencontre de l'autre, d'avoir un certain silence du cœur, de laisser l'autre advenir à lui-même. Et c'est vraiment, je dois beaucoup à cette petite sœur parce que grâce à son écoute bienveillante, grâce à sa présence, grâce à sa bienveillance, j'ai pu laisser monter ce qu'il y avait en moi dont je n'avais même pas pris conscience. Elle a comme fait éclater la chape de plomb que l'esprit du monde avait coulé sur mon intériorité. Alors que si elle était avec plein de questions, avec plein d'idées, plein de choses, peut-être que j'aurais pas pu naître à moi-même, en fait. Et peut-être que Dieu n'aurait pas pu se frayer un chemin jusqu'à moi. Donc, le silence est important pour soi, mais aussi pour les autres.
Donc, au fond, c'est au cœur du silence, c'est au cœur de cette écoute. Hein, cette petite sœur dont vous parlez a eu aussi écoute et silence, l'écoute avec la justesse de l'écoute.
Oui, je crois que c'est Benoît XVI, en 2016, pour les Journées mondiales de la communication. Il a placé ces journées sous le signe du silence. Étonnamment, parce qu'on peut se dire, la communication, on parle, etc. Et il a invité les participants à ne pas oublier l'importance du silence, l'importance de se taire et de ne pas toujours parler, finalement. Et il a souligné cette importance aussi dans l'évangélisation. Il dit que c'est... Okay, enfin, il est essentiel de puiser sa parole à la source du silence, en fait.
Au fond, quand on vous écoute et quand on vous lit aussi, donc j'invite les auditeurs à vous découvrir aussi en tant qu'écrivain, on découvre dans votre vie tout court de femme, de journaliste, de baptisée chrétienne, que la clé pour vous de la rencontre avec Jésus, la clé est le silence. Étonnamment,
oui.
Parce que vous êtes aussi dans le monde des médias, journaliste, on parle beaucoup, on ne s'est pas toujours écouté. Qu'est-ce qu'on écoute? Comment se rendre disponible? Au fond, le fruit d'une vraie conversion, en vous écoutant, c'est la clé, c'est le silence.
C'est le silence. C'est vrai que donc j'habite à Paris, donc ce n'est pas la ville la plus silencieuse. Mais j'ai besoin très fréquemment de retourner au monastère pour me faire me recharger en silence et en paix finalement. Et je pense qu'au début d'une aventure, d'un chemin spirituel, le conditionnement est très important. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin d'aller au monastère parce que là c'est silencieux et donc je peux recharger mes batteries. Mais je pense que plus on mûrit, plus on peut trouver le silence même au cœur du brouhaha de la ville. Madeleine Delbrel, par exemple, a parlé très bien de ce point-là. C'est qu'en fait, une journée de silence, elle peut être plus bruyante qu'une journée de bruit où en fait on n'est pas en silence en soi-même. Donc il y a à la fois le silence extérieur qui peut être très nécessaire au début pour pouvoir avoir un silence intérieur, mais il y a ce silence intérieur qu'on peut acquérir même dans le vacarme parisien.
Donc ça, vous êtes en apprentissage, vous vivez de ce silence aujourd'hui?
Non, je suis en apprentissage.
En apprentissage.
Il y a des moments plus ou moins simples.
Quel est le plus grand combat pour vous? Quelles sont les étapes dans ce chemin de foi, peut-être le plus éprouvant dans cette bataille, car vous avez parlé aussi au cours de ces échanges de la semaine et de ces rencontres aussi, de cette lutte, de ce champ de bataille, de ce combat. Et au fond, c'est vous nommez le combat spirituel dans la vie d'un chrétien.
C'est, c'est le combat spirituel. Et je pense que quand on n'a pas de combat, c'est peut-être mauvais signe. C'est mauvais signe.
C'est-à-dire, mauvais signe en quoi ?
Bah, en quoi c'est, on retombe, je crois qu'on en a déjà parlé précédemment, on retombe dans cette tiédeur, dans cette médiocrité. En fait, un chrétien en marche, enfin, un chrétien qui n'est pas en marche, un chrétien qui cesse de chercher, et un chrétien endormi.
Et c'est ce que vous craignez le plus, personnellement, permettez-moi.
Oui, je pense, c'est s'affadir, en fait, et s'habituer. S'habituer devant le mystère
de
Dieu.
Ça, c'est votre crainte, votre grande crainte, oui. De vous habituer.
En fait, je crois que je l'ai déjà dit, c'est quand j'ai ouvert la Bible pour la première fois, je suis tombée sur le passage de l'Apocalypse, je vomirais les tièdes. Et je ne veux pas être tiède, en fait. Donc, je demande, je supplie le Christ de sans cesse me secouer, me réveiller, me désinstaller, me remettre en marche, quoi, pour être. Et ce n'est pas juste pour moi, c'est que je crois que Chesterton dit « Nous sommes tous dans la même barque et nous avons tous le mal de mer ». Et donc, nous sommes solidaires, en fait, sur cette terre, croyants ou non, en recherche consciente ou non. On doit être dans cette recherche constante et parfois gémissante de Dieu, et de la vérité et de la vie. Et si on n'est pas en recherche, ben on est un peu mort, en fait. On est mort vivant. Et je trouve ça tellement important d'être solidaire avec ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas. Nous, on a reçu le cadeau inouï de la foi, donc on n'a pas le droit, finalement, de le mettre dans notre poche et puis de s'asseoir dans notre canapé, quoi.
Alors, vous restez, par contre, sur cette chaise, dans ces studios, pas très loin, je le rappelle, de la grotte Massabiel, où l'Immaculée Conception est venue visiter, est descendue du ciel pour visiter Bernadette. Et au fond, en visitant Bernadette, elle est venue visiter notre monde et notre humanité, et chacun et chacune d'entre nous. Merci infiniment. Infiniment, Alexia Vidot. On se retrouve demain pour clôturer cette série des clés pour vivre. Et j'invite bien sûr tous les auditeurs à découvrir donc votre ouvrage, votre écriture. Vraiment, vous avez une plume comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis. Et c'est vous-même aussi un peu, chaque jour, un peu de votre témoignage. Merci et à demain.
Merci.